Nous sommes toujours avec le directeur des ressources humaines de l'éducation nationale, Édouard Geffray, un DRH confronté à un problème qu'on connaît plutôt dans l'industrie en ce moment, dans le secteur secondaire, la difficulté à recruter, la difficulté à trouver des candidats, en tout cas c'est ce qu'on lit partout, et vous, vous dites que non.
Alors, je ne dis pas que non, je dis qu'il faut relativiser. C'est plus évidemment que ça dépend beaucoup des disciplines. Juste peut-être deux chiffres, si vous permettez, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui sont dites sur le sujet. La première chose, c'est que, premier chiffre, c'est 187 000. 187 000, c'est le nombre de personnes qui s'inscrivent chaque année au concours externe pour devenir professeur dans le public en France. Alors, il y en a bien sûr qui passent plusieurs fois le concours, etc. Mais enfin, rapporter une génération, c'est à peu près 750 000 personnes. 187 000, vous voyez, ça veut dire que j'ai plus d'une personne sur cinq qui, à un moment ou à un autre, s'inscrit comme candidate pour devenir professeur.
Vous voulez dire une personne, un Français sur cinq?
Une personne par génération, grosso modo, sur cinq, est suffisamment attirée pour s'inscrire à un concours. Deuxième chiffre, c'est 20 000. 20 000, c'est le nombre de personnes que nous recrutons chaque année. Cette année, on a recruté à peu près 10 000 personnels du premier degré et 10 000 personnels du second degré, enfin professeurs, hein, du premier degré et du second degré, donc 10 000 pour chaque. Donc c'est 20 000. 20 000 personnes qui vont par conséquent être titulaires d'un Master 2 à l'issue de leur formation, qui l'ont déjà quand elles passent le concours, ce qui est pas rien. Après, la réalité, c'est qu'on a des situations très contrastées en fonction des disciplines. C'est-à-dire qu'on a des disciplines dans lesquelles on manque de ressources. On cite régulièrement les mathématiques, on cite régulièrement les langues vivantes, anglais, allemand, etc. Et donc là, il y a un enjeu qui est en fait un enjeu de vivier. C'est-à-dire que ce sont des disciplines dans lesquelles le vivier est très petit. Et donc, même si on a beaucoup de personnes qui candidatent et même si on en recrute un nombre non négligeable, et bien tout simplement, à petit vivier, sélectivité moindre. C'est logique. Donc il faut travailler sur le vivier et notamment, il faut travailler sur ce qu'on appelle chez nous le pré-recrutement, c'est-à-dire aller chercher plus tôt les étudiants pour qu'ils puissent se destiner à une carrière de professeur.
Alors, il y a plein de choses dans ce que vous venez de dire. Alors, prenons les maths. D'abord, bon, il n'y avait pas de français cette année par les médaillés Fields, et ça a reposé la question de l'enseignement des maths. Je crois que vous avez fait des maths, d'ailleurs, Édouard Geffray. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voulez que quelqu'un qui soit très bon en maths ait envie de venir les enseigner comme prof en gagnant 1400 euros par mois jusqu'à ses 35 ans à peu près, alors que les boîtes privées leur proposent au bas mot trois fois plus?
Alors, d'abord, c'est pas 1400 euros par mois, encore moins jusqu'à 35 ans.
C'est 1,2 le SMIC de carrière d'enseignant.
Un professeur commence à 1600, un professeur en second degré commence à peu près à 1600 euros, et le salaire moyen d'un professeur aujourd'hui, il est à peu près de 2200 ou 2300 euros de tête. Hein, je veux pas vous dire de bêtises, mais enfin, c'est dans ces eaux-là. Donc, c'est pas exactement 1400 quand même, parce que vous avez une progression quand même qui est assez rapide. Deuxième chose, alors, comment est-ce qu'on fait là-dessus? Le ministre avait commandé, comme vous le savez, un rapport à messieurs Villani et Torossian, qui a été rendu sur l'enseignement des mathématiques, qui montre un certain nombre de choses, qui propose 21 mesures, dont le ministre a annoncé qu'elles seraient suivies d'effet, donc certaines dès la rentrée 2018, d'autres dès 2019. Il faut créer un environnement, c'est-à-dire que, ce que disent ces conclusions, c'est ça. Il faut créer un environnement entraîné pour les maths, à la fois en termes de type d'enseignement, un enseignement plus pratique, plus ludique, qui fait plus le lien en fait entre, j'allais dire, le concept mathématique et puis sa mise en œuvre très concrète, d'une part. Et puis d'autre part, il y a tout un environnement autour. Typiquement, vous voyez, quand dans un établissement vous avez un club de mathématiques, un club d'échecs, vous avez comme ça toute une série d'activités qui vous initient à des formes logiques qui sont pour une bonne partie d'entre elles mathématiques. Aujourd'hui, on a des jeunes générations qui sont geeks, qui savent tous ce que c'est qu'un algorithme. On a une très bonne école française de mathématiques. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas demain à former des générations mathématiciens.
Est-ce que vous vous rappelez cet envoyé spécial de 2016 qui avait beaucoup fait parler dans les salles des profs, avec un journaliste qui se faisait recruter comme prof de maths avec un diplôme falsifié? Il avait raté les examens, mais il avait dit à l'examinateur à l'oral « Mais vous inquiétez pas, je vais m'y remettre, hein, là j'ai eu une petite faiblesse » et l'éducation nationale manquait tellement de profs de maths qu'elle l'avait pris quand même. Est-ce que ce genre de choses peut arriver? Vous êtes en train de penser à une réflexion sur la réforme de la formation et du recrutement. Est-ce que ça peut arriver encore, ce genre de choses?
Bah, écoutez, j'espère que non. Après, si on cherche toujours l'exception qui confirme la règle, j'imagine qu'on va toujours pouvoir trouver des situations curieuses, voire aberrantes comme celles que vous évoquez. Mais enfin, normalement, on fait en sorte que non, à la fois en termes de niveau de recrutement et puis surtout en termes de formation derrière, qui, soit dit en passant, d'ailleurs, ne se traduit pas systématiquement par la titularisation des intéressés. Au bout d'une année de fonctionnaire stagiaire, on a des professeurs qui aujourd'hui ne sont pas retenus comme professeurs parce qu'on considère que leur niveau n'était pas suffisant.
Alors, vous disiez que toutes les matières et toutes les disciplines ne sont pas concernées par le manque de candidats. Toutes les académies ne le sont pas également. Les académies comme Créteil et Versailles ont dû mettre en place un deuxième concours annuel de recrutement pour pallier les manques. Comment vous pouvez rééquilibrer la carte de recrutement ?
Alors, on a été obligé de mettre en place un deuxième concours de recrutement dans le premier degré pour Créteil et Versailles. Pour une simple et bonne raison, c'est que les concours dans le premier degré, donc pour les professeurs des écoles, ont lieu tous le même jour partout en France. Ils sont par académie. Donc un candidat doit choisir s'il candidate à Bordeaux, à Versailles ou à Montpellier. D'accord ? À partir de là, il y a une réalité territoriale qui est que pour des raisons démographiques, à la fois de démographie d'élèves et de démographie de professeurs, on recrute à peu près 1300 professeurs du premier degré à Créteil ou à Versailles, quand on en recrute 300 ou 400 dans d'autres académies. Donc c'est pas que Créteil et Versailles sont moins attractives, c'est que Créteil et Versailles recrutent beaucoup plus. Et donc pour maintenir un niveau, ce qu'on fait, c'est qu'en fait on a effectivement un deuxième tour, c'est-à-dire que les candidats qui le souhaitent, qui n'ont pas pu s'inscrire au premier tour à Créteil et Versailles parce qu'ils étaient inscrits dans l'académie d'origine, peuvent s'inscrire pour Créteil et Versailles et passer le concours complémentaire, et qui donnent d'excellents résultats, puisqu'on a recruté 650 professeurs des écoles, on a la liste, enfin le nombre de postes ouverts a été saturé et même au-delà, avec un très bon niveau. Mais si vous voulez, il est évident quand vous recrutez 1300 personnes et 300, votre taux de sélectivité, par construction, n'est pas le même. Ce n'est pas une question d'activité, c'est juste une question de besoin démographique.
Créteil et Versailles, ce sont entre autres des académies où les loyers sont très chers. Et je vous repose la question du salaire des professeurs. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il faut revaloriser le salaire des professeurs ? C'est quand même une demande qui émerge de tous aujourd'hui.
Alors, il y a un certain nombre de mesures qui ont d'ores et déjà été prises. Hein. Je me contente de... En l'occurrence, de rappeler ce que le ministre a annoncé. La prime REP+, qui pour les enseignants REP+, se traduira par une rénovation de 3 000 euros en 3 ans.
Donc pour ceux qui enseignent en REP+, donc zone d'éducation prioritaire.
Personnes. Voilà, zone d'éducation prioritaire renforcée. Enfin, réseau d'éducation prioritaire renforcé, pour être très précis. Donc ça, c'est 46 000 personnes. Et évidemment, beaucoup dans des académies franciliennes ou très urbaines où la question de la tension du logement se pose. Deuxième chose, à l'agenda social dont je vous parlais tout à l'heure, donc, et notamment cette année, début 2019, va s'ouvrir un chantier majeur sur l'action sociale, et notamment cette question du logement. Donc je ne peux pas aujourd'hui préempter le débat, mais c'est un point qui est absolument central, qui fait l'objet d'une volonté politique extrêmement forte, et donc sur lequel on va travailler cette année avec l'ensemble des partenaires, les organisations syndicales, etc., pour trouver des solutions qui permettront de faire baisser effectivement cette tension sur le logement.
Sur les primes en ZEP, on ne peut pas rentrer dans les détails, c'est un peu technique, mais il y aura une part fixe et une part variable a priori, et part variable dont on ne sait pas en fonction de quoi elle variera, mais tout ça c'est en réflexion, c'est en chantier. Augmenter le pouvoir d'achat par des heures supplémentaires aussi, ça fait partie des réflexions. On disait tout à l'heure que les jeunes profs, notamment quand ils arrivent, ils surnagent entre leurs études, entre la classe. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'en plus il faudra leur demander de travailler plus ?
Alors par définition, tant qu'ils sont stagiaires, ils n'ont qu'un demi-service et ils ne peuvent pas faire d'heures supplémentaires, etc. En revanche, ensuite, dans la vie d'un professeur, et je pense que vous en connaissez, un certain nombre d'entre eux demandent régulièrement à pouvoir bénéficier d'heures supplémentaires. C'est-à-dire, j'aimerais bien pouvoir faire des heures sup cette année, est-ce que c'est possible, etc. Or, ce n'est pas toujours possible pour des raisons de disponibilité des heures en question. Et donc, effectivement, ce que le ministre dit la semaine dernière, c'est qu'on allait essayer de renforcer ce volume pour faire en sorte que ceux qui le souhaitent puissent plus facilement bénéficier.
Est-ce que l'éducation nationale arrive à faire la différence dans les inspections, les contrôles entre les profs ? Je me sens obligée de poser cette question. J'ai beaucoup entendu ça auprès des profs qui, pour certains, donnent leur vie entière à leur métier, passent leur temps à travailler leurs cours, à emmener les élèves partout, s'investissent beaucoup et disent, moi, clairement, je n'aurai pas le temps de faire des heures supplémentaires. Mmh. Et d'autres qui le font peut-être de façon un peu plus facile, on va dire, moins laborieuse, et pour qui, là, les heures supplémentaires seront peut-être plus faciles à prendre. apprendre.
Alors, vous avez deux choses. La première, c'est si vous me permettez, c'est que, pardon, hein, mais en tant que DRH, ce n'est pas certains professeurs qui sont investis, c'est l'immense majorité des professeurs qui dédient leur vie à la transmission.
Bien sûr, mais eux-mêmes ont parfois repéré dans les établissements et ça peut créer des tensions.
Alors, ouais, mais voilà, une immense majorité d'entre eux sont investis, énormément, et on est là grâce à eux. Deuxième chose, c'est que ça dépend aussi beaucoup des moments de la vie. C'est-à-dire ce qu'on observe à l'échelle d'une carrière, moi, tous les professeurs que je rencontre, ce qu'ils me disent souvent, c'est bah, y a des moments où, vous voyez, par exemple, je sais pas, j'ai des jeunes enfants, c'est pas forcément à ce moment-là que je vais courir après des supplémentaires, et puis surtout, je peux prendre un temps partiel, etc. Et puis, il y a des moments où, au contraire, pour tout un tas de raisons, j'ai envie d'en faire. Donc, il y a cet élément qui est une réalité dont on essaye de tenir compte au mieux, C'est encore une fois l'importance de la triangulation dont je parlais tout à l'heure entre le proviseur, l'inspecteur et la fonction RH de proximité qui permettra de mieux connaître le professeur et de mieux répondre à son besoin à un instant T.
Alors, vous avez évoqué en quelques mots, et on peut en dire un peu plus, le pré-recrutement et puis les candidats plus âgés aussi à la recherche d'une seconde carrière auquel l'éducation nationale pourrait faire une place. Dans les deux cas, quel profil ?
Alors, le pré-recrutement, l'objectif, c'est d'aller proposer à des jeunes étudiants, donc dès la L2, de s'investir dans
la
des activités, ouais, la licence 2, donc deuxième année de licence, de s'investir dans les activités pédagogiques et de monter en charge, si je puis dire, progressivement, jusqu'au concours, c'est-à-dire jusqu'à la fin du master 1, dans un même établissement, avec des tuteurs, etc., pour finalement découvrir le métier, y prendre goût, s'investir, et puis du coup qu'il n'y ait plus ce côté un petit peu de chaud-froid du concours dont vous parliez tout à l'heure. Et donc ça, c'est un processus qui a été lancé en cadre d'agenda social par le ministre et dont on discute actuellement avec les différents acteurs et qui sera en œuvre dès septembre 2019. Deuxième sujet que vous évoquez, c'est les secondes carrières. C'est très important. C'est aujourd'hui les concours pour lesquels le nombre de candidats croît le plus, de l'ordre de 10% par an chaque année. Donc supplémentaires. Ce sont des gens qui, comme vous et moi, ont fait une carrière différente de celle du professorat et qui, arrivés à 35, 40, 45 ans, se disent, en fait, moi, j'aimerais donner un sens différent à ma vie, donner un sens différent à mes engagements et devenir professeur. Et donc là, on a des profils qui sont très différents, souvent extrêmement intéressants, qui sont très attirés par le métier. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'ajuster la formation et l'information, d'ailleurs, à leur égard, pour faire en sorte de coller tout simplement à leur profil et de leur permettre de réaliser leurs souhaits et puis leur mission.
Édouard Geffray, pour terminer, l'étude de l'OCDE en juin, vous l'avez sans doute vu, qui expliquait que le vivier de recrutement aujourd'hui manquait de diversité sociale aux élèves les plus défavorisés, les enseignements les moins formés, en tout cas dans les bons lycées considérés comme bons parce qu'en menant une classe d'âge au bac de façon massive, 90% des enseignants sont certifiés ou agrégés, alors que dans les établissements les plus défavorisés, seulement 19% des professeurs ont passé avec succès l'un des concours théoriquement requis. Là encore, comment vous rééquilibrer ?
Eh bien, écoutez, je vais vous dire une chose, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps pour en parler parce que cette étude de l'OCDE repose sur une erreur assez dommageable, qui consiste à tout simplement considérer que les lycées défavorisés sont des lycées professionnels, les lycées favorisés sont des lycées d'enseignement général.
C'était les lycées professionnels qui étaient considérés comme...
Oui, en fait, le sous-jacent, c'est ça, et consistant à dire par conséquent que, à tenir compte, en fait, des seuls agrégés certifiés, non pas des professeurs de lycées professionnels qui sont également, évidemment, certifiés, etc., mais certifiés côté pro. Donc en fait, les chiffres que vous évoquez de 14%, etc., ne tiennent juste pas compte de tous les professeurs qui sont lycées professionnels, précisément, qui sont d'excellents professeurs, j'en profite pour le dire, et qui, tout simplement, n'ont pas été regardés par l'OCDE. Donc on a signalé ce point, un peu dommage, mais du coup, si vous voulez, je ne suis pas en mesure de commenter parce que ça ne correspond pas à la réalité opérationnelle des faits.
C'est vrai que c'est fait un peu mauvais genre, cette erreur.
Bon. Oui, surtout quand on est aussi engagé qu'on l'est sur la révision de la voie professionnelle.
Bon, autre légende urbaine, et on finit là-dessus, les profs ne sont pas recrutés, les directeurs d'établissement ou les rectorats ne vont pas chercher les profs sur le bon coin.
Ah, alors pas à ma connaissance.
Vous ne l'avez pas entendu,
mais,
celle-là.
Non, je ne l'avais pas entendu, mais écoutez, je suis en tant que DRH, je suis toujours évidemment intéressé par tous les modes de recrutement, mais celui-ci n'est pas celui que je privilégie.
Bon, on ira voir en tout cas sur le site du bon coin. En tout cas, merci beaucoup Édouard Geffray d'avoir été notre invité. Calendrier de la réforme ?
Calendrier de la réforme, ça va s'échelonner tout 2018 sur l'année 2018-2019, là, puisque donc les réflexions sont lancées ou vont être lancées en septembre, pour aboutir en septembre 2019.
Merci Édouard Geffray, directeur des ressources humaines de l'Éducation nationale, d'avoir été notre invité.